cinéma.
Eh bien, bonjour Louis-Marie.
Bonjour Jonathan et bonjour à tous.
Alors, qu'est-ce qui nous attend cette semaine dans les salles obscures ?
Vous le saviez, Jonathan, qu'il y avait déjà beaucoup de monde dans sa salle d'attente. Maintenant que la consultation est ouverte, les spectateurs vont se précipiter, se ruer même dans le cabinet du Docteur Strange. De plus, les examens risquent d'être longs car le plongeon dans le multiverse de la folie va être périlleux. Le fan doit s'y préparer, sans parler du visiteur peu coutumier de l'univers Marvel. Les histoires du multiverse, les liens avec les séries, sans parler des surprises, nécessitent une formation pour mieux apprécier le film. Sam Raimi, auteur de la première trilogie de Spider-Man, met en scène la deuxième aventure en solo de Stephen Strange, ou Stephen plutôt, rencontré aux côtés des Avengers ou de Spider-Man Doctor Strange in the Multiverse of Madness, voit le bon docteur confronté au multiverse et ses ténèbres.
Multiverse, qu'est-ce que c'est le multiverse pour ceux qui ne savent pas ?
Le concept du multiverse est apparu pendant les années 60, mais oui, dans les BD des éditeurs Marvel, les fameux Marvel Comics. Johnny Storm, un des quatre fantastiques, les premiers super-héros créés par Stan Lee, est envoyé dans un univers parallèle obscur appelé la cinquième dimension. Le concept de voyage dans le multiverse va se généraliser dans les comics, devenant un moyen de relier toutes leurs histoires et leurs différents personnages. C'est sur le postulat mystérieux et infini du multiverse que Marvel Studios bâtit sa nouvelle orientation cinématographique. Depuis la quête des pierres d'infinité, vous vous souvenez de la quête des pierres d'infinité, achevée avec Avengers Endgames, c'est la théorie des univers parallèles à celui dans lequel on vit et l'existence de réalités alternatives qui forment le nouveau décor des films Marvel. Dans les dernières aventures de Spider-Man, on a pu découvrir trois versions différentes de l'homme-araignée réunies dans le même film.
C'est-à-dire que c'est un Louis-Marie Solaire dans un autre monde qui fait autre chose que de la radio.
Par exemple, voilà. Et qui peut être moins gentil ou beaucoup plus.
Pardon.
Par exemple. Ce sont les conversations entre des personnages, notamment celles entre Stephen Strange et le maître du sorcier suprême, que le concept de multiverse a été expliqué. Il est largement utilisé également dans les séries comme Loki, What If ou WandaVision, visibles sur les bonnes plateformes de streaming, en principe même Disney+, c'est la seule, puisque ce sont eux les producteurs. C'est d'ailleurs de cette dernière, WandaVision, que débarque Wanda Maximoff, alias la sorcière rouge, dont on découvre dans ce nouveau film l'étendue incroyable des pouvoirs. Ainsi, elle est capable de modifier toutes les réalités du multiverse pour les remodeler comme elle le souhaite. Vous l'avez compris, il serait sage de voir ou revoir les films et les séries précités avant d'aller découvrir Doctor Strange 2. Ce n'est pas indispensable, mais ça pourrait s'avérer nécessaire pour mieux apprécier ou simplement comprendre le film. Doctor Strange in the Multiverse of Madness surfe sur une trame narrative destinée à donner un nouveau souffle à l'univers Marvel qui plaira aux fans mais qui risque de déconcerter les spectateurs occasionnels.
Un film assez long qui sort en salle. Et d'ailleurs, Louis-Marie, est-ce que je peux me permettre un petit cri de gueule ?
Oui, on dit plutôt coup de gueule, mais
oui,
vous pouvez
mais là,
crier
là,
si
c'est
vous
plutôt
préférez. Hurler même.
Le film est un peu long, alors on mange avant la séance ou après la séance. On ne mange pas pendant le film.
Oui, ça, je suis entièrement
d'accord.
Et pendant
le film, on se tait, on regarde, on parle après le film ou avant le film, pas pendant le film. Voilà, c'est un film très long. On se concentre, on regarde, on essaye de comprendre et après on fait un débrief. Voilà, c'est tout. C'est...
Exactement. Il vaut mieux rester concentré pendant tout le film, effectivement.
Et interdire la nourriture en cinéma. Merci, Louis.
Par exemple.
Solaire, pour ce premier conseil. Alors maintenant qu'on sait tout sur le multiverse de Marvel, il y a bien d'autres choses à voir, Louis-Marie, rassurez-vous.
Oui, un dessin animé japonais. Première réalisation de Masayuki Miyagi et Masashi Ando. Référence en matière d'animation. Ils ont travaillé notamment avec Hayao Miyazaki. Pour le voyage de Chihiro. Le roi Cerf, Le roi Ser met en scène le conflit entre l'empire de Zol et le royaume d'Aquafa, qui se bat pour retrouver sa liberté. On va croiser dans cette histoire sombre un ancien guerrier devenu esclave, qui adopte et protège une petite fille, ainsi qu'un prince guérisseur qui essaye de sauver son peuple d'une contagion maléfique. Le scénario, plutôt touffu, préfère à la ligne droite les circonvolutions parfois vertigineuses, sans pour autant négliger les enjeux narratifs. Les complots machiavéliques préparent à des combats sanglants. Les visuels proches des créations des studios Ghibli, on pense à Princesse Mononoke, sont vifs et percutants. Mais ici, le temps est plus long. Surtout, il passe. Oui, vous me direz, le temps passe toujours. Mais là, les personnages vieillissent, les enfants grandissent, donnant de cette façon la meilleure image de la complexité du conflit qui est raconté. Destiné à un public adulte, Le Roi Ser, film épique et ténébreux, reste optimiste en privilégiant au final un message pacifiste.
Un dernier conseil peut-être moins fantastique, le mari, pour terminer cette chronique.
Michael Hirst nous avait secoué, c'est le moins qu'on puisse dire, avec ses deux précédents films, Ce sentiment de l'été et Amanda, dont les thèmes tournaient autour du deuil. Avec son dernier opus, Les passagers de la nuit, il nous aimante avec les soubresauts d'une famille abandonnée par le père et dont la mère, Elisabeth, tout juste remise d'un cancer du sein, doit faire face à des problèmes d'argent et à l'éducation de ses enfants à charge. Edith, une jeune adulte, et Mathias, un ado, élève de seconde. Avec pour décor les années 80, le film commence par l'élection de François Mitterrand, le 10 mai 81. Michael Hirst épouse le rythme d'une décennie. Sa musique, son contexte politique, tout semble basculer vers un nouvel avenir. Elisabeth doit tout reconstruire de sa vie. À la fois chronique familiale et film choral, avec personnage central et élément perturbateur, la jeune Talula, adolescente paumée accueillie par la famille, le film évoque les liens familiaux, la parentalité et ses angoisses, l'échappée des enfants et son corollaire, la solitude des parents. Il parle aussi d'amour, de deuxième chance, de nouveau départ. Ces passagers de la nuit nous entraînent dans un fascinant voyage dont le souvenir hantera longtemps les mémoires.
N'existait pas, dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais.
Et si Louis-Marie n'existait pas, eh ben, il n'y aurait pas la chronique Mercredi Cinéma. Merci beaucoup, Louis-Marie Solaire.
Merci, Jonathan.
On vous retrouve la semaine prochaine?
Ah, bien sûr, avec grand plaisir.